sumeju defluba. Lunyamunabis dara dukutiriyes.
Merci beaucoup, Blaise. Bonsoir, chers auditeurs de la 103.0, Dabakh FM, la voix de la lumière. D'abord, on s'excuse pour ce retard accusé, qui est indépendant de notre volonté. Nous voilà réunis autour du plateau pour une édition spéciale qui va porter sur l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, avec à la présentation votre ami et fidèle serviteur Camara Lai Kamou, à la technique Didier Blaise. Bienvenue à nos invités, que sont Madame Josette Marceline Lopez Ndiaye et Monsieur Abdoulaye Sey. D'abord, on va faire la présentation de Madame Josette Marceline Ndiaye. Vous êtes magistrat à la retraite. Le président Macky Sall vous a nommé observateur national des lieux de privation de liberté par décret le 1er février 2017. Votre mandat dure 5 ans. Avant d'être magistrat, vous avez été avocate. Madame, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette présentation?
La présentation est correcte. Effectivement, avocate avant d'être magistrate. Et par la suite, donc, on m'a nommé observateur national des lieux de privation de liberté pour un mandat de 5 ans, non renouvelable, mais irrévocable. C'est-à-dire que on ne peut mettre fin à mes fonctions que si je démissionne ou si j'ai un empêchement. D'accord. C'est très important parce que c'est ça qui fait l'indépendance de l'institution.
Effectivement. Voilà. Comment est né l'Observateur?
L'Observateur a été créé en 2009 par la loi 2009-13 du 2 mars 2009. Ouais, c'est bien ça. Mm-hmm. Et par, il y a eu un décret d'application du numéro 2011-842 du 16 juin 2011. Mmh. Bon, elle a été créée par... j'ai été nommée par décret du président de la République le 1er février 2017. Avant moi, il y avait un magistrat aussi qui était là en 2012 et dont le mandat s'est terminé. Et c'est ainsi que j'ai pris sa place.
Voilà, vous êtes une autorité administrative indépendante. D'où vient cette indépendance?
Ben justement, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait que j'ai un mandat irrévocable et que je ne peux quitter si vous voulez l'institution que si je démissionnais ou si j'avais un empêchement, cela rend l'institution indépendante. Bon, j'ai aussi, il y a d'autres facteurs également, c'est que je ne reçois d'ordre d'aucune autorité. Je travaille donc librement et également j'ai un budget personnel, bien sûr qui m'a été alloué par l'État, mais qui me rend indépendante. Je ne suis pas attachée à l'État.
Voilà. Donc, on sait que derrière vous, il y a eu toute une équipe pluridisciplinaire. Qui sont ces gens qui vous assistent au quotidien?
Alors, effectivement, je recrute. C'est moi qui recrute mon personnel. J'ai le libre arbitre de le faire. Et je les recrute dans plusieurs secteurs d'activité afin d'avoir plusieurs expertises qui peuvent m'aider dans ma tâche. Donc, il y a des avocats, des magistrats, des juristes, des colonels. De gendarmerie à la retraite, des inspecteurs de l'administration pénitentiaire à la retraite, des commissaires de police divisionnaires à la retraite, des journalistes, enfin voilà.
Voilà. Donc,
je peux en prendre plus, hein, mais
effectivement.
Bon, c'est déjà pas mal.
Voilà, voilà, c'est bien. Mais madame, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, voulez-vous dire aux Sénégalais quelle est la mission de votre institution?
Notre mission est de contrôler les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté et de nous assurer de leurs conditions de vie dans les lieux de privation de liberté, s'ils ne sont pas torturés ni s'ils ne sont pas soumis à des traitements dégradants, humiliants et indignes.
Voilà. Voilà, donc on se tourne du côté de Monsieur Abdoulaye Sey. Monsieur Abdoulaye Sy, vous êtes au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Bonjour, Monsieur Sy. Donc, voulez-vous faire votre présentation à nos chers auditeurs et aussi de présenter votre institution.
Voilà, je vous remercie, Monsieur Kamara Lai Kamou, de m'avoir donné l'opportunité de me présenter. Mm-hmm. Et je voulais remercier également vos auditeurs et les auditrices. Mm-hmm. Je m'appelle Abdoulaye Sy, je suis analyste de programme au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, mm-hmm. bureau régional de l'Afrique de l'Ouest, dont mm-hmm. le siège est à Dakar, aux Almadies. Mm-hmm. Et vous savez que le Haut Commissariat, c'est l'agence principale des Nations Unies en charge mm-hmm. de faire le suivi de la mise en œuvre de toutes les conventions ou droits mm-hmm. garantis par les conventions internationales. Mm-hmm. Donc c'est la raison d'être du Haut Commissariat. Mm-hmm. Et nous avons un bureau régional qui couvre les 15 pays de la CEDEAO mm-hmm. et dont le siège est à Dakar.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sy. Madame l'observateur, vous avez fait le tour du Sénégal pour visiter les lieux de privation de liberté. Comment se passe une visite de l'observateur?
Alors, une visite de l'observateur, c'est assez long. Mm-hmm. Lorsque nous nous rendons dans un lieu de privation de liberté, nous abordons d'abord le sujet avec le responsable de l'établissement. Nous discutons avec lui sur les conditions de travail, sur la population carcérale, sur les méthodes qu'ils utilisent pour la fouille, etc. etc. Mm-hmm. Et ensuite, lorsque nous avons toutes ces questions-là, nous leur demandons de mettre à notre disposition les registres, parce que les registres tels que les registres d'écrou, d'objets et valeurs, quand c'est des prisons, mm-hmm. quand c'est des commissariats de police et de brigades de gendarmerie, c'est la main courante ou le registre d'écrou. Mm-hmm. Et parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes registres. Parce que les registres sont quand même les mémoires de ces établissements-là. Mm-hmm. C'est à travers ces registres qu'on sait tout ce qui s'est passé. Tout mm-hmm. ce qui s'est passé et c'est enregistré là-bas. Et il y a des conditions aussi imposées par la loi, la manière dont ces registres sont tenus. Ensuite, nous allons visiter les lieux. Mm-hmm. Nous nous assurons d'abord de comment ils sont traités à l'arrivée, les fouilles, comment ça se passe, etc. Si c'est fait de manière digne, mm-hmm. si on ne les met pas dans des états indignes, c'est-à-dire mm-hmm. Faire des fouilles collectives, les mettre dans des endroits au vu des gens, etc. Mm-hmm. Tout ça, c'est réglementé. Ils doivent être dans des endroits isolés, la fouille doit être individuelle, ils ne doivent pas être mis tout nus. Mmh. Ils doivent garder quand même, disons, la culotte au moins. Mmh. Hein? Tout ça, c'est bien sûr pour vérifier s'ils n'ont pas d'objets dangereux envers eux, mmh. et par-devers eux plutôt, et pour leur protection et la protection des autres.
Effectivement.
Voilà. Et ensuite, nous allons dans les lieux de détention avec l'accord du directeur. Mmh. Nous allons dans les lieux de détention pour vérifier les cellules, voir d'abord... l'espace, mm-hmm. l'espace où se trouvent ces détenus, parce qu'il y a des normes, normalement, des normes qu'on doit respecter, des normes internationales, plutôt internationales. Mm-hmm. Et donc, nous vérifions la literie, l'éclairage, la luminosité, mm-hmm. Les toilettes, parce que c'est un endroit qui doit être quand même bien tenu, parce que, vu la promiscuité, ça peut engendrer des maladies. Mm-hmm. Contagieuse. Et donc, nous vérifions tout ça. Ensuite, nous vérifions même les cuisines, les réserves d'aliments pour voir s'ils ont tout ce qu'il faut. Et nous entretenons. Nous choisissons des détenus parmi eux. Mm-hmm. Et nous entretenons avec eux en aparté afin que nul n'entende, c'est-à-dire aucun membre de l'administration n'entende, pour qu'ils puissent parler librement. Mmh. Et ils nous révèlent un peu leur vie dans la détention. Mmh. Ce qui s'y passe, etc. S'ils sont torturés, s'ils sont maltraités, etc. Ils nous en parlent de toutes les conditions qu'ils vivent là-bas. Et après, nous nous réunissons avec le... Quand on a fini, on revient vers l'autorité qui dirige cet établissement, et nous faisons un débriefing avec lui pour lui dire tout ce qu'on a entendu, tout ce qui a été fait, pour voir comment il va réagir face à tout ce qui a été dit. Mmh. Ensuite, nous faisons un pré-rapport. À la fin, quand nous quittons, nous faisons un pré-rapport sur tout ce qui a été fait. Mmh. Et nous leur envoyons le pré-rapport et eux, ils doivent faire des observations. Mmh. Et ces observations sont consignées dans un rapport définitif que nous envoyons à l'autorité compétente. Alors, selon que c'est un établissement pénitentiaire, ce sera le ministère de la Justice. Si c'est une brigade de gendarmerie, ce sera le ministre des Forces armées. Mmh. Si c'est la police, ce sera le ministère de l'Intérieur.
Voilà.
C'est assez long, hein.
Effectivement. Ça, on comprend. Voilà, mais cela requiert des moyens pour bien mener toutes vos activités. Qui vous soutiennent?
En général, c'est des bailleurs de fonds. D'ailleurs, là, nous avons un monsieur Sey est venu avec nous parce qu'il nous soutient dans cette mission-là. Cette mission-là est soutenue par le fonds spécial de l'OPCAT. Mm-hmm. Et c'est lui c'est le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui gère ce fonds. Et c'est la raison pour laquelle il est avec nous. Mmh. Et c'est ces fonds qui nous aident donc à faire ces activités-là. Mmh. Nous venons de finir une grande activité d'envergure dans tout le Sénégal avec le fonds européen, le fonds de la délégation de l'Union européenne. Mmh. Donc c'est à travers ces fonds que nous faisons ces missions d'envergure, disons. Mmh. Sinon, nous avons le fonds aussi octroyé par l'État et avec ce fonds, nous faisons des petites activités. Mmh.
Voilà. Mm-hmm. Mais en cas de torture dans un lieu donné, quelle suite vous lui réservez?
Bon, les tortures, d'abord, heureusement, avec notre arrivée, ça a beaucoup diminué. Mm-hmm. On n'en rencontre pas tous les jours. C'est vrai que si on fait des visites inopinées, peut-être qu'on aura plus de chances d'en voir. Mm-hmm. Là, on a eu à faire des visites programmées. Mm-hmm. C'est normal, quand on va dans les régions, on est obligé de dire qu'on arrive parce qu'il y a des préparations à faire. On est reçu par le préfet, le gouverneur, etc. Mm-hmm. Et parce que nous faisons des CRD et des CDD avec soit le gouverneur, soit le préfet, et pour sensibiliser justement tous ces gens-là sur l'observateur, sur les missions et prérogatives de l'observateur national. Mm-hmm. Et donc, où est-ce que j'en étais?
On en était avec...
je m'éloigne du sujet.
C'est-à-dire les tortures, on a des tortures dans un lieu donné.
Oui, alors donc je disais que c'est heureusement qu'on est là, parce que depuis qu'on est là, on voit rarement des tortures. Mm-hmm. On en a rencontré quand même lors de notre parcours. Je me souviens qu'au début, on a eu un cas de torture qu'on a vécu. Mm-hmm. Et là, avec le directeur de l'établissement, on a demandé à ce qu'il y ait une sanction disciplinaire contre l'auteur de la torture. Et ensuite, on a saisi le procureur de la République où on a déposé une plainte pour l'action pénale. Et effectivement, l'auteur des tortures a été sanctionné. Il a été muté. Et la plainte devant le procureur, par contre, n'est pas encore, n'a pas connu d'aboutissement encore. Voilà.
Voilà. Finalement, quel est l'état des lieux de nos prisons après vos visites?
On peut dire que les lieux sont beaucoup... Les gens font beaucoup plus attention maintenant à humaniser les lieux avec nos visites, parce que dans nos recommandations que nous faisons dans les rapports, nous expliquons certaines conditions qui doivent être respectées, les normes à respecter, etc. Et comment ils doivent traiter les détenus qui ont tous les droits. Mmh. Et le seul droit qu'ils n'ont plus, c'est le droit d'aller et venir, mais ils doivent respecter leurs droits fondamentaux. Mmh. Et donc, depuis que nous passons, ces lieux s'améliorent de plus en plus. On a vu Rebus, qui a maintenant un parloir, un greffe informatisé, qui a une partie qui a été réhabilitée pour augmenter les places. Bien sûr, le problème est toujours là, il y a toujours la surpopulation, mais quand même, les autorités tiennent compte de nos recommandations pour améliorer les choses.
Voilà. Vous visitez les prisons comme les ONG?
Oui.
Quelle est la différence entre vous et ces dernières?
Bon, les ONG et nous n'avons pas le même disons même statut, mm-hmm. ni mandat. Nous, nous avons un mandat et notre mandat est de visiter justement régulièrement les lieux de détention et de faire des recommandations et d'avoir un dialogue constructif avec l'État. Nous ne sommes pas dans les journaux à dénoncer, à critiquer. Nous sommes là surtout pour trouver une solution pour l'État. Donc nous leur faisons des recommandations, nous émettons des avis et des recommandations, et nous formulons des recommandations, nous faisons même des propositions de loi, tout ça pour aider l'État dans cette tâche-là. Tandis que les ONG, bon, ils sont là, c'est vrai qu'ils ont un rôle à jouer, un rôle qui est important aussi, parce qu'ils dénoncent, c'est des sortes de points d'alerte, ils dénoncent ce qu'ils voient, et ils font bien sûr à travers les médias, disons qu'ils sont surtout là pour relever les choses et les mettre au grand jour. Tandis que nous travaillons plutôt de manière directe, mais avec l'État. Nous ne sommes pas là pour le publier au grand jour. Nous faisons un travail discret, on peut dire.
Merci beaucoup. On va donner maintenant la parole à M. Abdoulaye Seydou, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Qu'est-ce qui explique le choix que vous portez sur l'Observatoire national pour l'accompagner dans le cadre de cette activité?
Oui, les raisons sont multiples. Mais cela tient d'abord à l'existence même de ce mécanisme national de prévention de la torture qui est l'Observateur, qui n'a pas existé par hasard. Si l'Observateur a existé aujourd'hui, c'est parce que le Sénégal s'est engagé au plan international à mettre en place un mécanisme de prévention de la torture en ratifiant ce qu'on appelle le protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Naturellement, quand un État est parti à une convention internationale, la moindre des choses, c'est de l'accompagner dans la mise en œuvre de son engagement. C'est ce que nous faisons. Et donc, c'est également lié à notre mandat. En tant que Haut-Commissariat des droits de l'homme, notre rôle, c'est d'appuyer les États, les institutions et tout acteur important au plan national à accompagner l'État à respecter ses engagements. Donc, de par le fait de notre mandat, de par le fait de l'engagement du Sénégal à respecter ce protocole facultatif, nous nous voyons dans l'obligation, comme le prévoient les conventions internationales, d'appuyer les acteurs étatiques ou non étatiques, à mettre, notamment l'État, à mettre en œuvre ces engagements. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là.
Voilà. Madame, pourquoi vous avez ciblé, dans le cadre de vos formations, les gendarmes, policiers, gardes pénitentiaires et les ASP?
C'est bien simple. Ce sont ces gens-là qui sont en contact direct avec les personnes privées de liberté. Donc, souvent, c'est des jeunes recrues qui, à cause de la fougue de la jeunesse, quelquefois, commettent des actes un peu irréparables. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi, pour essayer de les former en droits humains et leur expliquer que la torture est quelque chose qui ne doit plus exister et qu'elle est sévèrement réprimée et qu'ils risquent gros pour leur carrière, parce qu'elle est punie de 5 à 10 ans, de 100 000 francs à 500 000 francs d'amende. Et donc, et ils peuvent même perdre leur carrière. Donc, on leur explique qu'il faut abandonner ces anciennes pratiques qui ne sont plus d'actualité et qui sont décriées par le monde entier. Donc, ils peuvent exercer leur travail sans avoir à pratiquer ce genre de torture qui n'a plus de raison d'être. Parce que tous les documents, tous les PV qu'ils vont faire sur la base de la torture vont être annulés par la suite. Donc, ce sera un travail vraiment inutile. Donc, pour ces raisons-là, on leur apprend à changer de comportement et à leur montrer la gravité des faits. Et ça marche, parce que quand ils sortent de là, on sent qu'ils ont pris conscience et ils nous demandent même de les aider. De les aider à ce qu'ils ne commettent plus ce genre de choses. Et parce que, bon, on sent que ils réalisent combien c'est dangereux de se comporter comment on peut dire ça, d'avoir des pratiques pareilles.
Mmh. Voilà. Au-delà de ces corps habillés, vous avez organisé des ateliers thématiques avec les magistrats. Mmh. En quoi ça consiste ?
Les magistrats, par contre, c'est des ateliers thématiques que nous avons fait avec les magistrats. C'est justement pour trouver encore une solution à la surpopulation des établissements pénitentiaires. C'est vrai qu'il faut construire des prisons, mais ce n'est pas la seule solution. La solution aussi est de trouver des moyens pour que les mandats de dépôt ne soient pas décernés aussi systématiquement. Donc, on a réuni des magistrats à Kaolack, à Saint-Louis, à Ziguinchor et à Dakar. Et on a fait des ateliers pour trouver des solutions alternatives à la peine, à l'incarcération. Et trouver aussi des modes d'aménagement